30 minutes pour convaincre, l'émission politique de Judaïque FM animée par Gérard Hacoun et Vladimir Spiro. Nous recevons aujourd'hui Hervé Mariton, bonjour.
Bonjour, merci.
Vous êtes député Les Républicains de la Drôme et maire de Crest, j'espère que je prononce bien.
Je vous redis qu'on prononce Cré.
Ah, Cré,
oui, alors effectivement, c'est un véritable piège. Bienvenue à Cré.
Voilà, c'est un véritable piège. Alors nous évoquerons avec vous, évidemment, dans un premier temps, les affaires intérieures françaises et nous passerons ensuite à la politique internationale. Gérard Hacoun, première question.
Alors, vous êtes, nous l'avons appris pas récemment, enfin il y a déjà quelques semaines, que vous êtes candidat aux primaires pour l'élection présidentielle.
Je l'ai annoncé il y a une dizaine de jours.
Oui, oui. C'est ça. Ça fait pas très longtemps. Juste avant Mme Morano, qui l'a annoncé ou qui ne l'a pas annoncé, on ne sait pas.
En tout cas, je suis candidat parce que... faut parler à l'intelligence des Français. Je suis candidat parce qu'il faut relever le débat. Je suis candidat parce que je porte un projet de liberté et de valeur avec, je pense, la vigueur qui est nécessaire dans les temps durs que nous vivons, avec aussi une forme de respect, de politesse, de refus de l'hystérie qui me paraît indispensable si on veut être efficace, et puis une exigence d'innovation. Je n'ai pas été ministre de Nicolas Sarkozy. C'est précieux s'il s'agit de faire différemment de ce qui a porté à l'échec de 2012. Il se trouve que beaucoup de candidats ou de candidats potentiels ont été ministres de Nicolas Sarkozy. Je ne pense pas que ce soit en reprenant les mêmes qu'on fasse véritablement mieux. La réalité, aujourd'hui, c'est la tragédie du mandat de François Hollande, mais c'est aussi ce que le peuple avait sanctionné en 2012. Véritablement un échec. Je suis le porte-parole du groupe Républicain sur le budget à l'Assemblée. On dénonce, et on a raison, le matraquage fiscal mis en œuvre par le gouvernement socialiste. Enfin, Nicolas Sarkozy, son gouvernement, ses ministres avaient eu la main un peu lourde aussi.
N'avez-vous pas l'impression que ce pays est très difficile à remuer,
c'est tout
à faire bouger?
Mais c'est l'enjeu de ma candidature. La réalité, soit je suis capable de faire bouger, de motiver un certain nombre de nos concitoyens qui auront envie... de définir leur propre avenir, qui auront alors envie de participer aux primaires de la droite et du centre, des hommes et des femmes épris de liberté et de valeur. Et alors j'ai ma chance. Soit je ne suis pas capable de réveiller un nombre suffisant de Français, et à ce moment-là, ma candidature ne vaudra pas. Il y a évidemment les militants des formations politiques. Je suis militant des Républicains. J'honore beaucoup les militants des formations politiques. Ils font un boulot considérable en même temps. Si l'on veut demain que la France se réveille, retrouve le chemin de la prospérité sur le plan économique, retrouve l'affirmation de ses valeurs et de son identité, alors on a besoin que des millions d'hommes et de femmes prennent en main leur destin. C'est l'objet de la primaire. Votez pour moi.
Monsieur Mariton, vous venez de dire que vous êtes, et nous le savions, à la commission des finances. À l'heure actuelle, on va commencer à discuter, on a déjà d'ailleurs commencé, le projet de... loi de finances pour 2016. Quand on regarde les chiffres, je les ai notés, les recettes de l'État seront de 301 milliards, 7, les dépenses 374, ce qui fait un déficit de 73 milliards. Est-ce que, et la dette publique va aller en augmentant à 96,5 du produit intérieur brut annuel. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce projet?
Non, vous venez de donner un son de chiffre tout à fait essentiel. Le déficit est quasiment du même ordre que l'année précédente. Ça veut dire qu'il n'y a aucun effort sérieux de fait. Le niveau de la dette s'aggrave avec une dette que nous ne maîtrisons pas ni dans son montant ni dans son financement.
Je vous coupe une seconde. Monsieur Sapin a déclaré que nous atteignions le niveau maximum et que ça allait commencer à baisser.
Enfin, il y a quelque temps qu'il dit cela. Je dis simplement, la dette, c'est son montant et son origine, l'origine de son financement. Qui finance la dette? Les Émiratis et les Chinois. Tout de même, un vrai problème de souveraineté. C'est d'ailleurs aussi un problème de ressources compte tenu de la crise économique en Chine aujourd'hui. Il y a une semaine, j'ai passé 48 heures à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins à Brest. C'est absolument fascinant et c'est évidemment une mission essentielle. C'est un enjeu de souveraineté pour notre pays. Mais la souveraineté stratégique pour laquelle on dépense des sommes considérables, un seul SNLE, c'est plus de 4 milliards d'euros. Mais cette souveraineté n'a de sens que si, en même temps, nous sommes capables d'affirmer une souveraineté économique, financière, budgétaire. Ça n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Et pour établir la souveraineté budgétaire de la France, il est indispensable de réduire nos dépenses publiques. Je suis le seul dans la classe politique et dans l'opposition, je suis le seul à avoir proposé de manière argumentée, précise, un plan de réduction de plus de 100 milliards d'euros des dépenses publiques sur une législature. Ce chiffre de 100 milliards est partagé par d'autres, c'est bien, mais qui ne donne pas de précision, parce qu'il faut un peu de courage pour donner des précisions. Je suis le seul à l'avoir fait.
Ça et correspond à quoi, ces 100 milliards?
Ces 100 milliards, ce sont des réductions de dépenses par une réforme des retraites courageuse, 65 ans, 44 années de cotisation. Nicolas Sarkozy dit retraite à 63 ans. Attendez, c'est un déplacement minuscule du sujet tel qu'il est posé aujourd'hui. Ça ne suffit pas. Alors évidemment, quand on dit retraite à 65 ans, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Les gens qui ont 70 ans, ça leur va. Ceux qui ont 20 ans, ils comprennent. Ceux qui ont 60 ans, ils tordent le nez. Mais la réalité est là si on veut faire des économies. La réforme des retraites est essentielle. Deuxièmement, sur l'assurance chômage, l'exigence de contrepartie de la part des chômeurs, une vérification plus attentive. L'aide au logement, il y a des économies considérables à faire là-dessus. C'est un secteur ahurissant, le logement, qui correspond tout à fait au mal français. C'est un des secteurs les plus fiscalisés. Les propriétaires bailleurs payent énormément d'impôts. Et c'est un des secteurs les plus subventionnés. Ça, c'est le mal français. Une espèce de grande lessiveuse dans laquelle on prélève et on paye les gens. Sauf qu'au passage, vous avez beaucoup d'argent aussi mis à payer la lessiveuse.
Et donc on arrive à 100 milliards ?
On arrive à 100 milliards en ajoutant, vous avez raison, des économies qui doivent être aussi faites sur la sécu. Par exemple, la fusion de tous les régimes de sécurité sociale, c'est une économie de gestion de l'ordre de 6 milliards qui peut être réalisée de cette manière-là. La simplification administrative est aussi un gisement considérable d'économies, ça a été chiffré par l'OCDE. La maîtrise de l'emploi public. Le budget 2016, vous m'interrogez dessus, est un budget qui propose plus de 8000 emplois publics en plus. Entre autres parce qu'il y aura plus d'emplois dans la défense. C'est légitime, plus d'emplois dans la défense. Mais messieurs, gouverner, c'est choisir. Et donc, quand on augmente les emplois dans un domaine, parce que c'est justifié, sécurité, les dangers du terrorisme en France, la projection extérieure de la France, c'est une priorité, oui. Mais ça veut dire alors que dans d'autres domaines, il faut faire davantage d'économies. Et le gouvernement n'a pas cette maturité et cette cohérence.
Alors, vous avez proposé de modifier complètement le code du travail, qui a fait l'objet d'une campagne de presse assez mouvementée, et vous proposez au fond que le code du travail soit défini pour chaque entreprise. Est-ce que ça veut dire que la négociation dans chaque entreprise met de côté complètement la plateforme nationale ou le minimum de plateforme nationale ?
D'une certaine manière, oui. C'est quoi ma vision ? C'est que si on cherche à avoir un code du travail parfait à partir du texte actuel, travail titanesque, dans 10 ans, nous y serons encore. Donc, j'ai par ailleurs une logique qu'on appelle de subsidiarité, la responsabilité locale, faire en sorte que les choses puissent se décider au plus près du terrain. Et l'idée est que dans toutes les entreprises où cela serait possible, par accord avec les syndicats ou par référendum d'entreprise, les règles du jeu soient définies dans l'entreprise. Les règles du jeu sur la plupart des sujets, avec quelques sauvegardes qui sont simplement ce qu'on appelle les règles d'ordre public social. Par exemple, les directives européennes qui disent qu'il y a une limite au temps de travail à 48 heures par semaine. Mais ensuite, le débat pour savoir si c'est 32 heures, 35 heures, 36 heures, 39 heures, 40 heures, 42 heures, est un débat important dans l'entreprise. Mais ce n'est pas un débat qui relève du niveau national. Donc au fond, je veux que chaque entreprise définisse son code.
Et comment cela se passerait-il dans les petites entreprises où il y a 1, 2, 3, 4 salariés au maximum ?
Eh bien, il peut y avoir une discussion dans la branche, bien sûr. Il peut y avoir aussi des accords.
Donc vous n'écartez pas les discussions de branche.
Je n'écarte pas la discussion de branche. S'il n'y a pas d'accord possible dans l'entreprise, on discute dans la branche. S'il n'y a pas d'accord dans la branche, il reste, à titre supplétif, un code national qu'on aura allégé, simplifié, amélioré par la situation actuelle, mais qui ne sera que supplétif dans les situations où un accord local n'aura pas pu être trouvé.
Monsieur Mariton, le problème des migrants, certains disent d'ailleurs réfugiés, bon, ils préfèrent le terme réfugiés, est-ce que l'Europe s'est bien conduite, a eu les capacités d'y faire face, et le rôle de la France, à votre avis, est-ce que vous adhérez à la manière dont le gouvernement français a traité ce problème ?
D'abord, mon état d'esprit, pour reprendre un titre d'Alain Finkielkraut, reprenant lui-même une vision du, du roi Salomon, qui est celle du cœur intelligent. Et pour développer cette idée, on a besoin d'un cœur tendre et d'une intelligence ferme.
Est-ce que ça ressemble à Mme Merkel ?
Avec ses hésitations et ses allers-retours, il y a cette approche de sa part. Il y a un instinct de générosité, et il vaut mieux avoir un instinct de générosité qu'un instinct de pierre. Et il y a par ailleurs une analyse de la situation, la compréhension de contraintes et les conclusions qu'elle en tire. Alors, ça s'exprime par un nombre d'allers-retours un peu surprenant. C'est passé par une forme assez pénalisante d'unilatéralisme allemand, une décision prise de manière unilatérale par l'Allemagne en termes d'accueil, avec des affichages pas très utiles. Mais voilà, moi ce que je crois, c'est qu'il y a un devoir d'accueil, mais il n'y a pas de droit à l'accueil. Le libéral que je suis, pour faire un peu de philosophie du dimanche, est très attentif à la distinction entre le droit à et le droit de. C'est une distinction de philosophie politique tout à fait essentielle. Est-ce qu'on a le droit d'être accueilli ? La réponse est oui. Est-ce qu'on a le droit à l'accueil ? Un droit créance, une obligation, une créance opposable à celui qui vous accueille ? La réponse est non. Parce que celui qui vous accueille fait ce qu'il peut.
Même s'il s'agit de personnes qui sont en danger de mort, sur
ça fait partie
de politique.
C'est une question posée au cœur intelligent et à laquelle le cœur intelligent doit répondre. Il y a évidemment une grande différence entre celui qui est en danger de mort et celui qui ne l'est pas. Celui qui est opprimé pour des raisons politiques, celui qui est réfugié de guerre, vis-à-vis duquel le devoir est souligné, et par ailleurs la migration économique. Or, le cœur intelligent, c'est aussi que dans les migrants qui sont accueillis aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent de zones de guerre, il y a des personnes menacées dans leur pays, il y a aussi un certain nombre de migrants économiques. Le cœur intelligent sait aussi qu'il y a des personnes sincères et qu'il y a des personnes qui trichent, qu'il y a des personnes qui trichent sur leur identité et leur origine. Le cœur intelligent sait que la plupart de ces personnes ne viennent pas directement des pays menacés, mais qu'elles sont passées par des pays intermédiaires, la Turquie, la Jordanie, le Liban, dans lesquels l'intégrité physique des personnes n'est pas en cause, même si les situations peuvent être difficiles. C'est de tout cela dont il faut faire la synthèse. Il faut assumer en politique, au-delà de ce sujet des migrants, c'est mon identité politique. Il faut assumer en politique que tout n'est pas simple, qu'il peut y avoir dans le monde des complexités, l'Orient complexe, et qu'il faut apporter les réponses les plus compréhensibles, les plus lisibles, les plus efficaces et les plus simples possibles. Mais tout ne se résume pas à un slogan.
Mais en disant cela, vous n'envisagez pas une solution à l'échelle de l'Europe, puisque finalement, chaque pays va juger entre le cœur et l'esprit selon sa situation propre. Madame Merkel, par exemple, a un grand cœur, mais elle a aussi un problème démographique.
Oui.
Donc, ça ne sera pas du tout les positions de la France,
mais,
par exemple.
Mais de cela, on peut parler ensemble. De cela, on peut tenter la synthèse à l'échelle européenne. On peut, ensemble, améliorer le contrôle des frontières extérieures de l'Europe, donc faire en sorte que Schengen fonctionne mieux sans pour autant remettre en cause le principe de libre circulation à l'intérieur de l'Europe. Je discutais hier à Lille avec les élèves d'une école de commerce, l'IESEG, et nous étions tous d'accord ensemble pour dire que l'Europe, qui tout de même a beaucoup stimulé notre économie, la liberté de l'échange des biens et des services, ne s'imagine pas sans qu'il y ait en même temps une liberté de mouvement des personnes à l'intérieur de l'Europe. Mais assurons mieux les frontières à l'extérieur de l'Europe. Faisons en sorte que les demandes d'immigration en Europe soient traitées dans les pays d'origine. Et le pays d'origine, ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas l'Irak. Le pays d'origine, là où le migrant est avant de venir, c'est le Liban, c'est la Turquie, c'est la Jordanie. Les dossiers peuvent être traités là. Auquel cas, on saura mieux qui a le droit de venir et qui n'a pas le droit parce que la demande ne serait pas liée à des enjeux de préservation, d'intégrité physique, de sécurité, de droits de l'homme.
Monsieur Mariton, vous avez participé il y a quelque temps à l'université d'été du diocèse de Fréjus avec Marie-Maréchal Le Pen.
Marion
Maréchal Le Pen. Qu'est-ce qui vous a amené à ce colloque, à cette rencontre ?
L'invitation.
Quel intérêt, enfin, tout au moins s'il y avait intérêt.
L'invitation de Monseigneur Ray, l'évêque de Toulon, Fréjus Saint-Raphaël, Et la volonté de témoigner de ce qui est la source de mon engagement, de ce que sont mes convictions, et de démontrer, autant que je le pouvais, la part de cynisme qu'il y a dans le programme du Front National. Je pense que les positions de principe sont importantes, les récusations a priori existent, mais qu'il est utile parfois de démontrer. Et si on veut être efficace pour démontrer l'absurdité, le coût, l'extravagance du programme du Front National, ben, il faut accepter d'en débattre.
Vous avez insisté sur le côté économique de votre programme, de votre participation à la primaire, et il semblerait qu'on va de plus en plus se situer sur le plan de l'identité française, sur le plan de qu'est-ce que nous sommes. Nous sommes perturbés dans notre essence, en quelque sorte. Est-ce que vous intervenez dans ce débat-là aussi?
Bien sûr, parce que je pense qu'aujourd'hui, les Français, la France, sont sur un double besoin. Celui d'une prospérité retrouvée, les enjeux économiques, et celui d'une identité, d'une confiance, la question des valeurs. La liberté étant d'ailleurs une valeur. La liberté dans le monde. Un instant sur la politique étrangère. La liberté dans le monde, c'est ce dont j'ai témoigné en rencontrant les étudiants du mouvement des libertés à Hong Kong au début du mois de septembre. Je suis le seul responsable politique français à les avoir rencontrés. Il y a quelques années, les responsables politiques français auraient été beaucoup plus présents sur le terrain des libertés. La liberté, c'est quand elle est en danger en Russie. Je suis un bon connaisseur dans la Russie, ne pas se taire. La liberté, c'est ne pas céder à cette espèce de confusion qui amène beaucoup de responsables politiques français, en particulier à droite, à exprimer une singulière mansuétude à l'égard de M. Assad en Syrie. Oui, il faut combattre Daesh avec beaucoup de force, de vigueur et de résultats, mais pas au prix d'acquiescer à ce qu'a été depuis des décennies la politique du régime baasiste. Les valeurs, je le dis et je le dis ici, c'est à la fois défendre les chrétiens d'Orient, mais c'est ne pas oublier ce qu'a été le sort des Juifs au Moyen-Orient, auquel peu ont prêté attention pendant de nombreuses années. J'étais allé à Notre-Dame l'été 2014 et à la sortie pour témoigner d'une solidarité à l'égard du chrétien d'Orient. Il y a une dame qui m'interpelle, sachant à qui elle parlait et sachant qui je suis, en poussant le fauteuil roulant d'un monsieur qui avait quitté Mossoul avant. Et elle disait, mais ce monsieur m'a souvent dit que quand il avait quitté Mossoul, avant qu'il quitte Mossoul, pardon, bien avant, des années avant, des Juifs avaient quitté Mossoul. Et les Juifs lui avaient dit, aujourd'hui c'est samedi, faites attention, prenez soin de vous, demain peut-être ce sera dimanche. Cet engagement sur le terrain des libertés, nous devons le proclamer. Nous devons alors agir en conséquence. J'approuve la décision de la France et du président François Hollande de frapper Daesh en Syrie au nom de la légitime défense. J'ai attiré alors l'attention de mes collègues parlementaires sur le fait qu'il s'agit là d'un changement stratégique majeur, car cela amène à avoir un autre regard quand s'exprime la politique de la France au Moyen-Orient. La France demain ne pourra plus critiquer Israël comme elle le fait malheureusement depuis si longtemps, lorsque Israël, pour préserver son intégrité, lorsque Israël, pour lutter contre le terrorisme, est obligé de frapper au Liban ou dans d'autres pays du Moyen-Orient. Et donc oui, j'approuve cette évolution stratégique de la France, c'est affaire de défense de nos intérêts, c'est aussi affaire de défense de nos valeurs.
Monsieur Mariton, doit-on s'allier pour cela avec les Russes pour combattre Daesh? Car au fond, vous venez de le dire, indirectement, cela renforce Assad.
Oui, par ailleurs, on l'a vu ces derniers jours, les Russes ont frappé au moins autant les adversaires de l'intérieur d'Assad qu'ils n'ont frappé Daesh. D'autre part, des frappes inconsidérées et mal maîtrisées en Syrie peuvent conduire à continuer de vider la Syrie, non pas de Daesh, mais des adversaires internes du président Assad. Faisons très attention. Selon une expression familière, je ne donne pas au président Poutine le bon Dieu sans confession. Je ne suis pas d'une naïveté poutinienne. Donc, est-ce qu'il faut parler avec les Russes? Évidemment, oui. Y compris sur les opérations qui sont menées en Syrie aujourd'hui. Mais les intentions de la Russie ne me paraissent pas assez claires. Et cette idée qu'ont un nombre de responsables politiques en France, selon laquelle il faudrait faire ami-ami avec Poutine, avec Assad, avec Téhéran, non.
Alors, qu'est-ce qui vous gêne, au fond? C'est du pragmatisme.
Non, ce n'est pas du pragmatisme. C'est de l'aveuglement. Enfin,
certains le disent.
Oui, mais ils ont tort. Ils ont tort, un, parce que le régime d'Assad est inacceptable, parce que, deux, le régime de Poutine pose tout de même des questions extrêmement graves, et trois, parce que cette espèce d'automatisme ou de raisonnement un peu court selon lequel les ennemis de mes ennemis seraient automatiquement mes amis, eh ben c'est plus compliqué que ça. Est-ce que la France demain va participer à une guerre des Alaouites et des chiites contre les sunnites? Quel sens ça a exprimé comme cela? C'est compliqué, je l'assume. Je trouve à cet égard, je le dis, je suis un homme de droite. Je ne suis pas complice de tendresse à l'égard de François Hollande, mais je trouve que la diplomatie française ne fait pas tant de conneries que ça, si je peux me permettre d'être familier. Et qu'elle a le mérite de voir la complexité des choses, qu'elle a le mérite de discuter avec nos alliés. On a des alliés, les Américains, et donc d'éviter de tomber dans des réflexes trop rapides. La situation est compliquée. Oui, il faut lutter contre Daesh, mais non, notre première mission n'est pas de renforcer le régime d'Assad.
Mais peut-on intervenir réellement en Syrie sans envoyer des troupes terrestres?
D'abord, on peut utilement faire des frappes aériennes pour autant qu'elles soient bien destinées et bien préparées.
Je vous rappelle qu'il y a 1500
et quelques. Et la préparation des frappes aériennes, exige un certain degré d'appui héliporté et terrestre au sens de force spéciale. Il n'y a pas d'intervention aérienne efficace sans un minimum de support terrestre. Mais on voit bien ce qui peut être circonscrit dans le cadre de l'accompagnement et de la préparation immédiate des frappes aériennes. Et je ne suis pas favorable à une intervention au sol majeure, pas par pacifisme. J'ai fait partie des rares Français qui étaient favorables à l'intervention américaine en Irak en son temps. Je ne sais pas si j'ai eu tort ou raison. Compte tenu des éléments d'appréciation de l'époque, c'était très difficile à juger. Mais aujourd'hui, nous n'en avons pas les moyens. Et ceux qui, à droite, comme Bruno Le Maire, qui pourtant est diplomate, disent que voilà, la France doit intervenir, disent des âneries, je m'excuse de dire les choses comme je les pense, et qu'il faut qu'on ait tout de même l'intelligence de travailler avec nos alliés. Ça existe. Daesh, c'est pas une guerre spécifique à la France, c'est une guerre au monde occidental et à bien des égards à une vaste part du monde. Voilà, on détient pas la vérité tout seul, ni la France tout seul, ni un candidat aux primaires tout seul.
Monsieur Mariton, vous venez de dire que cette affaire syrienne n'est pas, ou Daesh, enfin le califat, n'est pas une affaire spécifique à la France. Pourtant, le ministre de la Défense s'est exprimé en ce sens, en disant qu'en intervenant en Syrie, nous défendions en quelque sorte la France, parce que le nid des terroristes se trouve en Syrie, capable de frapper en France.
C'est vrai, mais en bonne logique, et vous le saisissez vous-même, le nid des terroristes capable de frapper la France est là-bas, mais ces terroristes peuvent aussi frapper d'autres pays. Et vous le redites, et c'est important, je le répète, parce que c'est un changement stratégique essentiel, et ça peut avoir des conséquences considérables sur notre politique au Proche-Orient et notre politique avec Israël. Nous argumentons là au nom de la légitime défense. Il faut alors que nous comprenions que d'autres, je le dis à Radio Judaïque, mais je l'ai dit mardi au groupe UMP à l'Assemblée, au groupe Républicain,
oui,
à l'Assemblée.
Les Républicains.
Donc je suis très cohérent là-dessus. C'est une évolution du concept de légitime défense. C'est vrai alors que tous ceux qui sont très attachés aux prudences infinies de la politique arabe de la France ou de la politique de la France au Proche-Orient en sont un peu secoués, parce que c'est un changement, mais c'est un changement cohérent. Il s'agit de légitime défense pour la France, il peut aussi s'agir de légitime défense pour d'autres. Alors, et c'est vrai que ça bouscule un peu l'ONU. Enfin, vu l'ONU, avec les responsabilités des Saoudiens dans le domaine des droits de l'homme à l'ONU, bousculer l'ONU, ça ne me gêne pas plus que ça.
Ça sera le mot de la fin. C'était 30 minutes pour convaincre, l'émission politique de Judaïque FM. Nous recevions aujourd'hui Hervé Mariton. Vous êtes député de la Drôme, Les Républicains.
Oui.
Au revoir à toutes, au revoir à tous et Shabbat Shalom.